Voilà, je crois vraiment qu'aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose aussi dans notre vie. Dieu veut continuer. Est-ce qu'on s'y attend? Est-ce qu'on l'espère aussi? Et je crois qu'on est levé, formé, envoyé aussi pour la moisson qui est blanche, il y a peu d'ouvriers. Et aujourd'hui, Dieu ne vous a pas amené ici par hasard. Je crois qu'il a un rendez-vous avec chacune et chacun. Ce n'est pas juste comme ça qu'on se retrouve là et par hasard, mais Dieu a un plan pour chacune et chacun d'entre nous. Dieu a un rendez-vous avec vous. Amen. Dieu vous a fixé un rendez-vous. Et le Saint-Esprit veut réveiller des hommes et des femmes qui ne se contentent plus d'assister à l'œuvre de Dieu, mais qui deviennent des acteurs. Et quand Ramsès a dit ce matin qu'il allait nous faire participer, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui où il nous a tous fait lire. On n'est pas juste appelés à s'asseoir sur une chaise et à regarder ce qui se passe, à écouter, voilà, à écouter, mais vraiment à être des acteurs dans le royaume de Dieu. Merci aussi pour cette introduction, le temps de louange. Évidemment, l'Église de Jésus, ce n'est pas un bâtiment, ni un public, ni une organisation religieuse, mais c'est un corps vivant. Et quand on parle d'un corps, ben, il y a plusieurs membres dans un corps. Si avec la tête, ben, il manquerait évidemment les mains, les pieds et tout le reste du corps, la tête peut rien faire sans tout le reste du corps. Il y a besoin aussi les uns des autres. Et dans un corps vivant, eh bien, chaque membre a une fonction, chaque don a une utilité et chaque croyant a une mission aussi. Et la plus grande tragédie, c'est pas qu'il manque de talent dans l'Église, la plus grande tragédie, c'est que beaucoup de dons restent cachés. Beaucoup d'appels demeurent silencieux et beaucoup de disciples vivent en dessous de la destinée, eh bien, que Dieu leur a préparée. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle une vérité puissante. Et je crois qu'il y a une vérité que vous devez entendre ce matin, c'est qu'il sauve personne pour qu'il reste spectateur. Alors oui, peut-être vous regardez le mondial ces jours, et c'est vrai qu'il y a énormément de spectateurs, mais peu de joueurs finalement, peu d'acteurs. Peu d'acteurs. Et Dieu sauve pour faire de chacun un serviteur finalement. Il veut que chacun soit sur le terrain en quelque sorte. Qu'il n'y ait pas juste quelques joueurs sur le terrain et les autres restent sur la touche, non. Chacun joue, il veut nous équiper aussi pour nous envoyer une forme, pour faire grandir son Église et toucher le monde. Et pour ça, il y a besoin de tout le monde. Il ne suffit pas juste de dire ben, il y a Jésus, il y a la tête ou il y a quelques personnes qui sont payées pour faire le job. Non, il faut tout le monde. Autrement, ça avance pas. Et le Nouveau Testament nous montre une église où tous sont appelés à servir, mais où certains, c'est vrai, sont établis pour conduire, pour enseigner, pour équiper les autres, afin que tout le corps grandisse dans l'unité et dans la maturité. On a besoin les uns des autres. Personne ne peut dire, j'ai pas besoin de mon frère ou de ma sœur qui est à ma gauche ou à ma droite. Non, on a besoin ou devant ou derrière. Alors une question s'impose à chacun de nous, quelle est ma place dans le corps de Christ? Quel don Dieu m'a-t-il confié? On a déjà entendu des thèmes, des enseignements sur ça, mais je crois que c'est bon d'aller un petit peu plus loin. Quel ministère m'appelle-t-il à exercer pour sa gloire? Ministère, ça peut être un grand mot. Quel service? Oublions pas que le ministère, eh bien, c'est un service. Et ce matin, on va découvrir que Dieu ne cherche pas simplement des croyants, mais des disciples disponibles. Est-ce qu'on est ces disciples prêts à répondre à son appel? Il ne cherche pas seulement des auditeurs de sa parole, mais des ouvriers pour sa moisson. Parce que notre mission est claire, c'est d'être mis en mouvement par la grâce de Dieu. Dieu veut qu'on soit actif, qu'on soit en mouvement, qu'on soit en marche, qu'on soit formé par la parole et par le Saint-Esprit, puis envoyé avec puissance pour transformer aussi notre génération. Vous êtes appelés à être des acteurs de transformation dans ce monde. Et tout ça repose aussi sur les quatre grandes vérités qui portent notre foi dans les églises de réveil aussi. Jésus sauve, Jésus baptise de son esprit, Jésus guérit et Jésus revient. Toujours ce focus sur le retour du Christ, sur le baptême du Saint-Esprit. Oui, si on s'arrête au salut, il nous manque quelque chose. Mais Jésus baptise de son esprit pour nous mettre aussi en mouvement. Le Saint-Esprit a été donné pour nous rendre capables et Jésus guérit aujourd'hui. Et il y a cette urgence, eh bien, que Jésus revient. Jésus revient, on ne sait pas quand, mais Jésus revient. C'est un des messages eh bien, qui traverse toute la Bible. Alors que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, révèle notre appel aussi et fasse de chacun de nous un instrument puissant entre les mains de Dieu. Amen. Amen. L'Église est appelée à devenir un atelier spirituel où Dieu forme ses outils. Des outils qui vont servir dans son Église, des outils qui porteront la parole de Dieu ici comme à l'extérieur, comme au loin. Et le Nouveau Testament présente une Église où tous les croyants sont responsables de sa vie. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur quelques personnes, sur le conseil, sur les pasteurs, sur les anciens. Non, on est tous co-responsables de la vie de l'Église, finalement. On est tous co-responsables et c'est vrai, certains sont peut-être appelés à des ministères particuliers pour assurer aussi l'unité, l'enseignement, la direction. Ces ministères reposent aussi sur des charismes, des appels spécifiques reconnus par la communauté, mais tous ont aussi un appel et un service. Il y a peut-être deux ministères qui structurent particulièrement l'Église, ministère de la parole qui proclame l'Évangile et nourrit la foi et donne des lignes spirituelles, et le ministère de direction, de gouvernement qui guide, qui protège, qui conduit l'Église aussi selon sa volonté. Les responsables ne sont pas appelés à dominer ni à rendre l'Église dépendante d'eux, mais à équiper les croyants en vue du ministère. Coordonner les dons de chacun et favoriser aussi la croissance de tout le corps. Leur autorité a un service exercé avec et pour la communauté, jamais indépendamment d'elle. En une phrase, tous participent à la mission de l'Église, mais Dieu appelle certains à le servir par des ministères de la parole, la direction, afin d'équiper le peuple de Dieu et d'assurer l'unité aussi dans le corps. Alors vous pouvez écouter l'excellente série aussi qui avait été donnée par Jean-François Jobin sur les dons de motivation. Vous trouvez ça sur le site internet, il y a la chaîne YouTube, mais sur le site internet, il y a le lien aussi, le site internet de l'Église, il y a 8 vidéos. Un questionnaire où il parle des prophètes, des serviteurs, de l'enseignant, du donateur, du dirigeant, le don de miséricorde, l'exhortateur. Et il y a une présentation générale. Et je ne vais pas revenir là-dessus parce que beaucoup de choses ont été développées avec brio. Et c'est très intéressant si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à ces rencontres. Écoutez ça. Mais un petit rappel, je dirais, de ce qui se trouve dans la Bible. Et pour aller plus en profondeur, écouter ces vidéos. Rappel des ministères, ministère de la parole, j'ai dit aussi, c'est les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, les enseignants avec ces textes d'Éphésiens 4:11, 1 Corinthiens 12, ministère de gouvernance aussi, évêques, surveillants, anciens, présidents, conducteurs, dirigeants, responsables de l'Église, avec Actes 14, Actes 20, 1 Timothée 3, Tite, et le ministère de service, les diacres. Et il y a des dons, des charismes aussi, qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12, Romains 12, Éphésiens 4, avec des choses qui nous sont données aussi pour des moments spécifiques, paroles de sagesse, paroles de connaissance, la foi aussi, qui est un don, le don de guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, on en a besoin aussi dans ce monde, diverses langues, interprétation des langues, service, enseignement, exhortation, encouragement, libéralité, générosité, présidence, direction, dit en d'autres termes, miséricorde, secours, administration, etc. Il y a pas mal de choses, mais pour résumer, et je crois qu'il y en a pour tous, il y en a pour tous justement, des dons ou des ministères. La différence essentielle, les dons, charismes sont des capacités spirituelles données par le Saint-Esprit pour édifier l'Église. Tout croyant en reçoit un ou plusieurs et les ministères sont des fonctions reconnues dans l'Église où ils exercent aussi, s'exercent grâce à des dons particuliers, un appel particulier. En résumé, le don est une capacité à faire quelque chose. Le ministère est une responsabilité ou un service. Un ministère s'appuie sur un ou plusieurs dons. Ça, c'est pour l'introduction, mais mes propos ne vont pas se baser là-dessus. On croit, écoutez les vidéos voilà, que Jean-François a faites. On croit avec tout notre cœur à ces quatre piliers, si je reviens, qui ont un peu fondé nos églises de réveil, l'évangile aux quatre angles, Jésus sauve, Jésus baptise de son esprit, Jésus guérit et Jésus revient. Et ce matin, ces quatre vérités vont définir à la fois votre place dans l'Église et votre mission dans le monde. On croit à l'importance de l'Église locale qui est le corps de Christ. Et je vais lire Éphésiens 4, 11 à 16. Normalement, vous pouvez les voir projetés en même temps que je lis. Éphésiens 4, 11 à 16, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Les saints, c'est vous, c'est moi. C'est pas les morts, hein, contrairement à ce que l'Église catholique voudrait nous faire croire, mais c'est les vivants, c'est ceux qui sont mis à part, sanctifiés. Donc ces dons ont été faits pour nous former finalement. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, la construction, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Là aussi, l'importance d'être attaché à un corps pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, on entend tellement de choses partout. On peut se nourrir à tous les râteliers, comme on dit aussi sur tous les réseaux sociaux, mais tout n'est pas forcément bon, même si c'est bien présenté. Verset 15. « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » On doit être centré sur Jésus-Christ. Il est celui qui, voilà, de qui partent toutes les jointures. Vous avez été mis en mouvement par un Dieu qui sauve. Grâce à votre salut, Jésus sauve et il vous a sauvé pour son Église et pour le monde. La vérité fondamentale, mes frères et sœurs, avant toute chose, c'est que vous êtes des rachetés. Si vous n'avez pas cette assurance du salut, il vous manque quelque chose. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Déjà, demandez cette assurance du salut. Recevez cette certitude du salut. Recevez la grâce de Dieu. Ce n'est pas votre talent qui vous a amené ici, c'est le sang de Jésus, c'est la grâce de Dieu. Votre salut n'est pas seulement une destination, c'est le point de départ de tout. Ce n'est pas une arrivée d'être sauvé, mais c'est le point de départ. Jésus sauve. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous alliez au ciel seulement ou tout seul, juste vous. Et il vous a sauvé dans un ensemble. Il vous a sauvé pour que vous serviez son corps et que vous retourniez chercher les autres. On est appelé à servir son corps qui est l'Église et aussi aller à la pêche. Aller à la pêche vers d'autres qui n'ont pas encore reçu le salut. Dieu vous a placé dans un corps local, ce n'est pas un hasard. Et votre Église a besoin de vous. Votre Église a besoin de vos talents. Elle a besoin de vos dons, de votre formation, de votre fidélité, de vos prières. Paul dit clairement que les ministères sont donnés, Éphésiens 4, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous avez été formés dans le but de participer à la construction de l'Église de Jésus-Christ, ici à Bienne, déjà. C'est là que vous êtes. Il y a des gens autour de vous qui périssent sans Christ, dans vos quartiers, vos familles, vos lieux de travail. Allez leur dire que Jésus sauve. Est-ce que votre témoignage, mon témoignage, eh bien, parle de cet amour de Christ dans ma maison, là où j'habite, sur mon lieu de travail. auprès de ma famille aussi, frères et sœurs qui ne connaissent peut-être pas encore Jésus-Christ. Soyons actifs dans notre Église. Personne n'est là pour occuper un siège. Personne est là juste comme ça, pour réchauffer l'atmosphère seulement. Non, tu es là pour servir et pour témoigner. Tu es un membre du corps de Christ, appelé à être utile. Peu importe ton titre, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup attachent une importance au titre. Peu importe ton rôle, reste toujours un membre actif du corps de Christ, un témoin du Dieu qui sauve. Ce n'est pas le titre qui est important. Le titre, on s'en fiche finalement. Ce qui est important, eh bien, c'est d'être membre de ce corps et de participer à la vie de ce corps. Donc on est sauvé, on est mis en mouvement. Notre salut nous met en mouvement. Deuxième chose, vous avez été formé par un Dieu qui baptise de son esprit. J'ai dit Jésus sauve, Jésus baptise de son esprit. Jésus baptise son esprit, vous équipe pour servir là où il va vous a placé. Dans Actes 1, 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À Jérusalem, c'était là où les gens étaient. Et notre Jérusalem, alors qu'on ne comprenne pas ce que je suis en train de dire, mais ici, eh bien, c'est déjà ici. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Bienne, dans toute la Suisse romande, en Suisse et finalement dans le monde. Si je peux me permettre cette adaptation aussi. 1 Corinthiens 12, 7, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Finalement, on a reçu le Saint-Esprit pour le bien de tous, pas pour nous, pas pour faire des guili-guili dans le dos pour notre confort. Aujourd'hui, beaucoup viennent à la foi pour leur propre confort, pour voir ce que ça peut leur rapporter comme plus dans leur vie. Bien sûr que ça nous apporte quelque chose, mais on est sauvés avant tout pour sauver d'autres. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Finalement, cette puissance, elle est là pour être des témoins de Jésus-Christ. La vérité fondamentale, c'est que les messages et les enseignements, les études bibliques, même des formations théologiques, vous donnent des outils et de la connaissance, et c'est très important. Paul était un érudit, Paul était quelqu'un qui avait de nombreuses connaissances, et c'est important. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne la puissance pour utiliser toute cette connaissance. Aucune formation, aussi bonne soit-elle, remplace l'onction. L'onction ne s'apprend pas dans une école de théologie. L'onction se reçoit. L'onction se reçoit par Jésus-Christ, par son esprit. Les dons de l'esprit ne sont pas donnés pour votre gloire personnelle, pour épater la galerie ou pour un enrichissement personnel. J'ai vu dernièrement une vidéo, j'étais choqué. C'est un prophète qui manifestement a beaucoup de succès. Il disait, si tu veux une prophétie, et c'était en live direct, il y avait beaucoup de monde dans la salle, il vendait ses prophéties, c'était 500 euros. La prophétie, c'était ça. Je me suis dit, ouais, mais c'est quoi ça? Et manifestement, ça marchait. Hein et c'est actuel, c'était en 2026. C'était en 2026 et c'est... Je me suis dit, mais c'est quoi cet évangile-là? Les dons ne nous ont pas été donnés pour vendre quelque chose. Ça fait penser aussi à Simon qui voulait aussi acheter la puissance de l'esprit et finalement, ça lui a été gravement reproché. Donc les dons sont donnés aussi pour l'utilité commune de l'Église, c'est écrit. Sans l'esprit, la théologie reste de la théorie. On a besoin de la théologie, mais on a besoin de l'esprit. On a besoin des deux. Les deux ne sont pas en opposition. Et certains voudraient dire il n'y a que le Saint-Esprit. Là aussi, c'est une erreur. Il y a besoin de la connaissance, mais il y a besoin que le Saint-Esprit mette en mouvement cette connaissance. Sans l'Esprit, le service dans l'Église devient de l'activisme religieux. Et on peut se frustrer Certains disent oui, mais on ne m'applaudit pas assez, je fais toujours ceci, toujours cela, jamais personne ne me remercie. Finalement, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Alors c'est important, la reconnaissance, mais sans l'esprit, eh bien on va faire des choses et on va être frustré parce qu'on n'est pas reconnu ou on ne se sent pas suffisamment reconnu aussi ou applaudi. Et ça peut devenir de l'activisme. Sans l'esprit, le ministère devient de la performance et parfois de l'épuisement. On va faire, et parfois en comparaison pour essayer de faire mieux que les autres. Non, on n'est pas appelé à faire mieux que les autres. On est appelé à faire pour le Seigneur. Là aussi, ce que l'esprit fait dans l'Église à travers vous, eh bien, c'est qu'il vous donne des dons pour servir les autres. Il n'y a pas besoin d'attendre, de se dire, mais quel don j'ai reçu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pour la gloire de Dieu. Si tu as la capacité de faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché, dit Jacques, sauf erreur aussi. Il vous donne la sagesse pour parler et pour écouter. Il vous donne la parole juste au bon moment. Là aussi, ces dons qui sont là pour écouter, mais parfois aussi pour parler, pour donner une parole juste à propos, il vous donne l'amour qui supporte et qui restaure et qui réconcilie. Il vous donne la puissance pour aller au-delà de vos limites naturelles. Sans l'esprit, on peut aller jusqu'en bout, à un certain stade, mais avec l'esprit, on peut aller plus loin. Et c'est pour ça eh bien, qu'on vous invite à une vie de plénitude dans le Saint-Esprit. On n'est pas appelé à faire juste des chrétiens, des croyants, mais des disciples qui vont être remplis du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, eh bien, ça va être de la théorie. Sans la plénitude du Saint-Esprit, notre message est vide. Et une théorie peut être contrée par une autre théorie aussi mieux amenée. Par contre, ce qu'on reconnaissait en Jésus par rapport aux pharisiens, c'est qu'il avait cette autorité naturelle qui venait du Saint-Esprit, qui venait de Dieu. Les disciples avaient passé 3 ans avec Jésus. Imaginez 3 ans avec Jésus, la meilleure formation de théologie pratique et théorique possible. Mais Jésus leur a dit dans Actes 1, 4 à 5, « N'allez pas encore, attendez la puissance d'en haut. » Actes 1, 4 à 5, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc Jésus en compagnie des disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est qu'à la Pentecôte que le ministère a vraiment commencé pour les apôtres, les disciples, et ce jour-là, 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église dans Actes 2, 41. « Ne servez jamais dans l'Église avec vos propres forces seulement. » Un service sans l'onction du Saint-Esprit peut remplir des programmes, peut faire quelque chose, mais ne peut pas changer les cœurs. Seul l'Esprit de Dieu convainc, transforme et libère. Seul l'Esprit de Dieu convainc. Ou autrement, on va être en compétition les uns envers les autres pour être plus vus. Avoir plus de likes sur YouTube, avoir plus de ceci. Combien d'églises fonctionnent aux likes aujourd'hui ? Combien d'églises ont tellement investi dans les réseaux sociaux pour être le plus en vue possible. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je ne suis pas persuadé qu'on doit attirer la gloire à nous, ni à l'Église d'ailleurs. Enfin, je suis même convaincu du contraire. Luc 4, 18 à 19, prenons ce texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Ce n'est pas dit que... Il m'a rempli la tête d'informations et de théologie. C'est important, hein. Je ne suis pas en train de minimiser la formation. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais cette théologie, elle est rendue vivante. Elle est rendue active. Cette connaissance est rendue active eh bien, par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui est sur nous, qui nous a consacrés pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Autrement, on va le faire par devoir, par légalisme. Il faut que j'évangélise. Si je ne suis pas sorti tant de fois dans l'année, le Seigneur va être fâché. Finalement, on va s'imposer des règles, mais on ne va plus le faire avec amour, mais par devoir, comme les témoins de Jéhovah ou d'autres. Il m'a envoyé pour guérir aux pauvres. On a ce devoir qui nous est imposé par le Saint-Esprit, ce mandat. C'est plus une obligation parce que je dois faire, parce qu'il y a un programme, parce que ceci, mais c'est parce que l'Esprit pousse tellement fort mon cœur à l'amour des autres aussi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Comment aimer des gens qui ne sont pas aimables, mes frères et sœurs ? Ce n'est pas possible sans l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas possible. Mes amis, faites de la lecture de la parole de Dieu votre priorité. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est la base. Sans la parole, eh bien, on tombe dans des hérésies. Comme j'ai dit, on va vendre des prophéties, on va avoir la culture du like sur les réseaux sociaux et finalement soigner notre ego pour être plus vu. Faites du temps de prière votre priorité. Les temps de prière, participez-y en commun, mais aussi chez vous. Aussi chez vous. Faites de la présence de l'Esprit votre priorité absolue dans votre service. N'œuvrez jamais sans demander aussi la puissance du Saint-Esprit dans vos vies. Ce que tu accomplis dans l'Esprit durera pour l'éternité. Ce que tu fais dans la chair s'effondrera ou créera des frustrations. Des frustrations. Troisième chose, Jésus sauve, Jésus baptise son esprit. Troisième chose, vous êtes envoyés par un Dieu qui guérit. Jésus guérit encore à travers son Église. Marc 16, 17 à 18, il est écrit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils pourront chasser des démons. » Parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci leur fera aucun mal, mais ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Là encore, c'est la puissance du Saint-Esprit qui s'accomplit. Et figurez-vous, il y a une bonne nouvelle dans Hébreux 13, 8, c'est qu'il est écrit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce qu'il accomplissait du temps des apôtres, il est capable de l'accomplir aujourd'hui encore. La guérison en Jésus-Christ, elle n'est pas réservée à une élite, mais aux disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes des disciples ? Alors c'est pour vous. C'est pour vous. Ce n'est pas réservé aux pasteurs ou à... Alors oui, il y a des dons particuliers qui sont donnés chez certaines personnes, mais je crois que c'est pour tous. Pour tous à un certain niveau. La guérison appartient à la vie ordinaire de l'Église locale et c'est dans le corps de Christ que les malades trouvent la prière, trouvent la compassion, que les blessés trouvent la restauration, que les captifs trouvent la délivrance. Alors oui, on ne croit pas en la guérison automatique et instantanée. Ça arrive des fois, parfois. Parfois ça prend du temps, parfois eh bien, ça sera dans la gloire de Dieu. Peu importe, mais vous avez été formés pour être des instruments de cette guérison. Votre église est un lieu de guérison. Les gens qui viennent s'asseoir à côté de vous portent souvent, voire parfois, des blessures. Il peut y avoir des mariages brisés, il peut y avoir des cœurs meurtris, il peut y avoir des corps malades. De quelle manière aussi le Saint-Esprit nous pousse à nous préoccuper les uns des autres ? Passez pas à côté de ces personnes sans les voir. Pensez jamais à le pasteur ou les pasteurs devraient s'occuper d'eux. Vous êtes des membres du corps de Christ et vous êtes appelés aussi à vous occuper du bien-être du corps dont vous faites partie. Oui, les pasteurs et autres responsables ont certaines responsabilités et doivent faire ces choses, mais vous aussi, en tant que membre du corps, vous avez cette co-responsabilité. Priez pour les malades et Jésus guérira. Vous savez, il y a une probabilité certainement plus grande de voir des gens guéris suite à la prière si vous priez que si vous ne priez pas. Ben forcément, si je ne prie jamais pour un malade, je vais avoir à peu près 100% de réussite. c'est qu'aucun malade sera guéri si je prie jamais pour quelqu'un qui est malade. Ça, c'est certain. Priez pour les malades et Jésus guérira. Déclarez la liberté aux captifs. Hein? L'Éternel, le Seigneur, m'a consacré par onction aussi. Tendez la main aux blessés et Jésus restera. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il ne leur a pas seulement donné un message à prêcher, il leur a donné une puissance à démontrer. Et la récolte ne vient pas seulement par des belles prédications, elle vient quand les malades sont guéris, quand les captifs sont libérés, quand les démons fuient au nom de Jésus. Et ça commence ici aussi, dans votre église locale. Alors attention aux conclusions aussi trop rapides. Hein, on vient de terminer le livre de Job. Là aussi, c'est pas évident de... Des maladies chroniques, des maladies où on ne trouve pas de solution. C'est tellement plus facile de mettre une petite accusation sur quelqu'un en disant « le Seigneur veut te parler ». Bien sûr que le Seigneur veut nous parler, mais il peut parler aussi sans nous flanquer une maladie. Hein. Vous êtes d'accord ? Donc là aussi, c'est peut-être pas ce que les gens ont besoin d'entendre. De dire que les gens veulent leur parler, que Dieu veut leur parler quand ils sont malades, mais bien sûr, c'est une logique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour déclarer ça, c'est certain. Parole de compassion, d'amour, une prière, une écoute, une présence. N'aie pas peur de croire pour des miracles au quotidien dans ton église et hors de l'église, parce qu'en fait, on n'en est pas la source, on en est juste le canal. Et Dieu est encore un Dieu de puissance. Alors ma conclusion, c'est mon quatrième point. C'est Jésus revient, c'est cette urgence finalement. Soyez prêts et faites que les autres aussi membres du corps soient prêts dans son église. Que chacun soit prêt, que personne soit laissé de côté finalement. On est co-dépendant et co-responsable des autres membres du corps finalement. Mon bien-être aussi dépend du bien-être des autres. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Là aussi, de proclamer. Éphésiens 5, 25 à 27, Jésus s'est donné lui-même pour elle l'Église, c'est-à-dire afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et l'appelée et lavée par l'eau de la parole et pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Souvenons-nous finalement que celui qui purifie l'Église, c'est Christ. C'est Christ. Prions pour notre Église, parce que Jésus s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté. Elle n'est pas encore parfaite. Prions. Prions. Il y a une vérité qui change tout, c'est que Jésus revient bientôt. Si on est conscient que Jésus revient bientôt, ça nous pousse aussi à l'action, mes amis. Il revient pour une église glorieuse, sans tache ni ride. Il revient pour une église qui a accompli sa mission. Et chaque membre formé et équipé est une pièce essentielle de ce grand puzzle. Je ne sais pas si vous aimez faire des puzzles. Rebecca, elle aime bien en faire. Moi, j'ai la patience pour un bout. Mais voilà, chacun son mandat, son ministère. Hein. Mais chacun est cette pièce du puzzle et trouver là où on arrive aussi à vraiment être utile, là où on ne doit pas forcer pour prendre sa place non plus. On ne doit pas appuyer pour que ça passe. Chaque service fidèle dans l'église locale est une pierre posée pour son retour. On a besoin. Chaque âme gagnée au dehors est une âme de plus dans son royaume. Et ça signifie concrètement que votre service dans l'église n'est pas secondaire. Même si vous avez l'impression qu'on ne voit pas ce que vous faites ou qu'on ne voit pas toujours. C'est une préparation active au retour de Christ. Et quand vous annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous préparez son retour. Quand vous témoignez de Jésus à vos voisins, à des amis, des personnes dans votre quartier, dans votre immeuble. Quand vous priez pour les malades, vous préparez son retour. Même si quelqu'un qui ne croient pas encore en Dieu de la même manière que vous, eh bien, vous partagent un souci. Vous êtes, à moins que vous soyez médecin, psychiatre, psychologue ou ayez une formation particulière, vous pouvez dire, ben voilà, tu me partages ça, mais est-ce que moi je crois en Jésus, est-ce que tu me permets de prier pour toi ? Il y a deux possibilités à ça, c'est qu'ils vous disent non, 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 surtout pas. Ou alors qu'ils vous disent oui. Mais c'est très rare, j'ai très rarement rencontré ou entendu que des gens refusent. Très rarement. Et rien que de dire, ben, voilà, plutôt que de lui dire « je connais la tante Agathe qui a un frère qui a eu telle maladie ou autre », ça ne va pas changer son quotidien. On connaît tous quelqu'un qui a quelque chose de similaire et autre, qui, ça ne va pas améliorer. Par contre, si vous lui dites, mais voilà, écoute, tu sais, je suis croyant, place ma foi en Jésus, est-ce que tu permets voilà, que je prie pour toi au nom de Jésus ? Une prière toute simple. Faites-lui pas peur en priant 12 heures. Il n'y a pas besoin de faire un combat spirituel. Vous savez, on croit des fois, Dieu n'est pas sourd, il n'y a pas besoin de crier, déjà. Il n'y a pas besoin de crier pour que Dieu agisse. Et puis, il n'y a pas besoin de faire des prières longues. Ce n'est pas à la longueur de notre prière qu'on sera plus exaucé. C'est juste prier au nom de Jésus-Christ. Quand vous évangélisez dans votre quartier, préparez son retour. Quand vous formez d'autres à leur tour, vous préparez son retour. Là aussi, en tant que parents, grands-parents, ben, on peut aussi former, on peut aussi enseigner, on peut éduquer. Alors, en conclusion, ce dimanche, en recevant la parole de Dieu, vous recevez non seulement un enseignement, mais aussi une charge sur votre cœur. Une charge, parce que vous êtes membre actif de cette Église. Une Église qui a besoin de vos dons. Et je ne parle pas de vos finances, hein, en disant ça. C'est vos dons mis en pratique. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin de votre service. En disant, l'Église devrait s'en occuper de cette personne. L'Église, souvenez-vous, c'est vous. Quand vous dites « Ah, mais telle personne, l'Église ne s'en occupe pas », mais à moins que vous fassiez, vous ne faites pas partie de l'Église, ben, si vous êtes démembré. Donc il y a des frères et sœurs qui ont besoin de votre service. Il y a des anciens qui ont besoin de votre soutien aussi, de votre prière. Paul disait aussi « Priez pour nous ». Il y a des responsables, des pasteurs, il y a des nouveaux convertis qui ont besoin de votre accompagnement. Il y a des quartiers qui attendent votre témoignage et il y a des nations qui attendent votre message. Et Jésus revient, soyez prêts. Faites de plus en plus que ce monde soit prêt dans son Église et pour son monde. Servez avec fidélité. Alors pour terminer, cet évangile aux quatre angles, ces quatre piliers dans l'Église pour le monde. Jésus sauve, alors évangélisez et édifiez. Jésus baptise, servez dans la puissance de l'Esprit. C'est tellement important de demander non seulement d'y aller avec nos capacités, nos connaissances, même si on sait faire, mais de dire ben, j'ai besoin de ce plus. J'ai besoin de ce plus qui va faire toute la différence, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus guérit, priez pour les malades et les blessés. Jésus revient, vivez et servez dans cette urgence, pas remettre au lendemain. Demain, ce sera peut-être trop tard. Servez avec fidélité et allez changer le monde pour la gloire de Dieu. Et le réveil continue à travers vous. Vous êtes les artisans du réveil en étant membres du corps de Christ. Amen. Eh bien, Seigneur, merci, parce que tu nous mets au défi, Seigneur. Tu nous rappelles, Seigneur, qu'on est sauvés. Seigneur, tu nous as mis dans ton corps, dans ton Église. Seigneur, tu veux aussi, Seigneur, pas juste qu'on serve avec nos simples capacités, mais tu nous équipes par la puissance de ton Esprit. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui encore, tu es celui qui guérit. Seigneur, merci, parce que tu reviens bientôt. Et merci Jésus de nous mettre en mouvement, Seigneur, nous guérir parfois de notre somnolence ou de notre défaitisme. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.